Blues en liberté qui commence, qui reprend, on pourrait dire, parce qu'il y a eu une longue interruption ces derniers mois, ces dernières années, et je m'en excuse. Et je suis si heureux de retrouver l'antenne et de vous retrouver sur les ondes de Radio Libertaire, le 89.4, la radio toujours anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître et sans publicité, avec Thomas Laurent qui va venir nous présenter un nouvel album. Un nouvel album en trio dont on va parler pendant toute cette émission. Bonjour Thomas.
Bonjour, salut Pierre.
Salut. Et donc un album cette fois-ci aux couleurs du Brésil, parce que je rappelle pour nos auditeurs, nos auditrices qui nous suivent depuis longtemps que Thomas était déjà venu, c'est un fidèle des ondes de Radio Libertaire et de Blues en Liberté, était déjà venu nous parler de l'accordéon sous tous ses états. De l'harmonica sous tous ses états. On avait voyagé de la Jamaïque au blues à un peu partout et c'était super. Donc peut-être qu'on en reparlera un peu de tout ça. En attendant, est-ce que je vous dis tout de suite ? Oui, je vous dis tout de suite. Donc ce trio, c'est le Karine Huet et Thomas Laurent Trio. On aura deviné que Karine est une des autres musiciennes de l'album. Ça s'appelle Agora et il y a un des titres de cet album qui sort bientôt, là, tout juste, qui s'appelle Relâchar, c'est ça ? Mais plutôt dans le sens de relaxer. Donc, je propose que pour se mettre un peu dans l'ambiance relaxante de cette musique et dans toutes les ambiances de cette musique, on écoute tout de suite pour commencer Relâchar du Karine Huet et Thomas Laurent Trio.
Thank you.
Relâchard de composition de Karine Huet, interprété par le trio de Karine Huet, Thomas Laurent et Yesser Oliveira. Thomas Laurent ici présent à l'harmonica sur ce titre. Et pendant qu'on écoutait ce morceau, Thomas, tu me disais qu'un des principes de ce trio, c'est aussi de jouer sur les timbres des instruments à hanches libres, et notamment sur la proximité entre, alors ici dans ce qu'on a entendu, l'accordéon et l'harmonica.
Ouais, ouais. Tout à fait. C'est vraiment la base de notre rencontre avec Karine. Ça a été vraiment d'essayer de travailler ce son entre l'accordéon et l'harmonica pour amener la musique brésilienne, une musique qu'on adore, quoi, tous. Et donc ça nous semblait intéressant de créer cette formule avec ces instruments-là, puisque dans la musique brésilienne, l'accordéon a une place importante, notamment dans le foro. Mais l'harmonica se développe aussi de plus en plus, même si ça reste quand même encore marginal par rapport à d'autres instruments qui ont beaucoup plus de place. Mais on s'est dit pourquoi pas faire une formation autour uniquement de ces deux instruments-là. Parce que comme je disais, en musique brésilienne, on peut trouver de l'accordéon et de l'harmonica, mais c'est souvent des instruments accompagnés par le cavaquinho, des percussions, des instruments beaucoup plus traditionnels. Nous, on a vraiment voulu resserrer notre musique autour de ces deux instruments qui appartiennent à la famille des hanches libres.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer donc les hanches libres, ce qu'on voit à peu près, donc c'est une hanche qui est laissée libre et qui vibre un peu toute seule, et que ça nous va bien, Radio Libertaire, les hanches libres aussi, mais est-ce que tu peux du coup juste faire un petit truc bref sur les hanches libres?
Bah, là, tu l'as bien résumé. En fait, le principe d'une hanche libre, c'est une hanche qui a une position de départ, et avec l'air qui arrive dessus, elle vibre en haut et en bas de part et d'autre de sa position. Elle vibre de manière ample. Et voilà, après, l'air peut être amené de différentes manières, ou bien donc comme l'harmonica, enfin, surtout l'harmonica, donc par le souffle ou l'aspiration. Et l'harmonie et l'accordéon avec le soufflet, par exemple, de l'instrument. On retrouve aussi dans cette famille d'hanches libres l'harmonium, aussi pareil, avec le principe du soufflet. Et comme on disait aussi en interne, la guimbarde fait partie aussi de cette famille-là, quoi.
Et c'est tout ça, c'est des instruments assez récents, hein, mis à part la guimbarde. C'est aussi des instruments qui sont apparus au 19e siècle, si je me souviens bien de notre émission harmonica. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a la rencontre entre une tradition musicale qui est, enfin, les traditions brésiliennes. On va pouvoir développer ça après, le foro, le choro, et d'autres. Et aussi un questionnement sur les timbres, en fait. Donc comment vous avez fait cette rencontre, puisque apparemment c'est entre Karine et toi, c'est-à-dire Karine était en train de jouer, tu t'es dit mais c'est incroyable, je veux faire un truc avec l'accordéon, enfin.
En fait, c'est venu de nous deux, vraiment, l'idée de faire ce projet-là. Après, la rencontre avec Karine, elle s'est faite, moi j'ai rencontré Karine il y a longtemps, c'était en 2009, en 2012, pardon, lors d'une session de choro qu'elle animait à Rennes, puisqu'elle, Karine est bretonne, et elle s'occupait d'une jam session dans un club à Rennes, où elle avait réussi à fédérer autour de cette musique plein de musiciens bretons autour du choro, voilà. Et moi, j'ai découvert cette musique peu de temps avant, en 2009, lors d'un voyage au Brésil. Elle, Karine, ça faisait déjà un moment qu'elle pratiquait cette musique, qu'elle avait déjà écouté, travaillé, digéré cette esthétique, ce vocabulaire. Et donc, c'est un ami en commun, en fait, qui connaissait Karine, qui me dit, puisque tu es là, il faut absolument que je te fasse rencontrer Karine, qui joue de la musique brésilienne aussi. Viens, on va passer voir sa jam. Cette jam de Choro, cette session de Choro. Et donc, on s'est rencontrés là dans un bar. Il y avait plein de musiciens, c'était super. Moi, ça m'a vraiment rappelé là-bas, quoi, ce que j'ai pu entendre là-bas. Puis après, nos chemins se sont séparés pendant un certain temps. Et c'est en fin de l'année 2019, quelque chose comme ça, qu'on s'est revus. Puisque Karine, entre-temps, a déménagé à Paris, a quitté sa Bretagne pour venir habiter Montreuil. Et puis en fait, on s'est revus aussi par le syndicat, puisque elle est très active au sein du SNAM, du Syndicat National des Artistes Musiciens. Moi, j'en fais partie aussi. Et donc, on s'est revus dans un bar, avec un copain qu'on avait en commun du SNAM. Et puis de là, on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire une session comme ça pour essayer, pour voir. Et puis l'idée vraiment nous est venue de creuser vraiment plus cette sonorité nouvelle, on va dire, puisque c'est encore une fois, c'est un instrumentarium qui n'est pas utilisé au Brésil dans cette forme-là.
Ouais.
Vraiment uniquement l'accordéon et l'harmonica seul. Voilà. Alors, du coup, là maintenant, il y a les percussions de Yesser Oliveira. Karine connaissait Yesser et Yesser s'est joint à nous pour cette musique.
Ok, alors il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir détailler dans tout ce que tu as dit, mais tu viens de parler d'un syndicat.
Oui.
Et est-ce que tu peux expliquer cette aventure du syndicat? Parce que tu m'en as déjà parlé, mais pas à l'antenne. Donc pour nos auditeurs et nos auditrices, le syndicat, le SNAM que tu viens de citer, quelle est son histoire, quels sont ses combats, quelles sont ses luttes?
Ça a été de régler, enfin, je veux dire, de mettre au clair les droits des musiciens, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert le SNAM comme ça, en fait. J'ai raconté l'histoire du syndicat.
Ouais, bien sûr.
Plutôt à travers mon expérience, que je suis pas expert en histoire du syndicalisme.
Non, mais j'ai mal formulé.
Karine est beaucoup plus carré que moi là-dessus, donc j'ai pas peur de dire une bêtise. Mais en gros, quand t'arrives, t'es intermittent, t'es musicien, t'as appris la théorie musicale, t'as appris à jouer de ton instrument, t'as bossé, mais quand t'arrives sur le marché du travail, t'es pas forcément au courant qu'il y a des droits, que le musicien, il y a des choses qui sont réglementées par des conventions collectives, et il se trouve, je me suis retrouvé dans une position à avoir un problème avec un employeur, et du coup il y a un ami qui m'avait parlé de la CGT Spectacle qui était là pour défendre les droits des musiciens, et à l'intérieur de cette fédération du spectacle je suis tombé très très vite sur le syndicat des artistes musiciens, SNAM, qui a été très efficace en tout cas dans la résolution de mon problème, on va dire, en tout cas. Et puis de là, à partir de là, ça c'était en 2006, et moi c'est à partir de ce moment-là que j'ai adhéré au syndicat et que j'ai suivi les actions qui étaient menées par ce syndicat pour nos droits, quoi.
Et je me permets d'arrêter momentanément sur cette question, parce que pour deux raisons, en fait. La première, c'est que tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est assez rare, en fait, d'entendre des artistes musiciens parler d'engagement syndical. C'est quelque chose qui est pas, enfin en tout cas sur les musiques que je connais le mieux, c'est-à-dire jazz, blues, etc. Et aussi pour une autre raison, qui est que finalement cet engagement militant, cet engagement syndical t'amène à des expériences artistiques.
Bah oui.
Ouais. Ce qui est assez marrant, puisqu'on vit quand même dans une idéologie dominante, un discours dominant qui a tendance à dire l'idéologie, la politique d'un côté, l'art c'est autre chose. Et là, t'es la preuve vivante qu'en fait, les deux se mélangent très bien.
Bah oui.
Et ça fait quand même plaisir.
Bah ouais, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est l'histoire de ce disque. Hein. Le disque, ce nouvel album s'appelle Agora. Et s'il s'appelle Agora, c'est pour une raison très particulière.
Okay.
On a occupé au printemps 2021 le théâtre de l'Odéon dans le cadre de la lutte pour nos droits, puisqu'on s'est retrouvé dans une situation où on était interdit de travailler. En même temps, il fallait qu'on fasse les heures pour avoir droit au, à nos indemnités d'intermittent. En même temps, il y avait la réforme de l'assurance chômage qui arrivait sur le tapis. Ça a été donc deux de nos revendications principales, l'abrogation de cette réforme de l'assurance chômage et des droits pour les artistes, et les étendre aussi à d'autres métiers comme les guides conférenciers, les maîtres d'hôtel, tous ces métiers qui travaillent par intermittence. Et on s'est retrouvé donc à occuper le théâtre de l'Odéon. Et en fait, nous, notre rencontre artistique, comme je te disais, avec Karine, elle a eu lieu, on va dire, fin 2019, début 2020. Donc quelque part juste avant le Covid. Donc on a commencé à travailler ensemble et puis boum, Covid, voilà. Donc ça a été compliqué. Après, on s'est retrouvé avec les interdictions de travailler, les couvre-feux, les machins, les droits. Enfin, on s'est retrouvé dans des situations complètement aberrantes. Et bref, pour en revenir au théâtre de l'Odéon qu'on a occupé, il y avait un lien avec l'extérieur du théâtre qui a été fait, qui s'appelait les Agora. C'est-à-dire les Agora, c'était ce moment où nous, occupants du théâtre, on pouvait exprimer nos revendications et faire le lien avec les personnes à l'extérieur en rassemblant sur le parvis de l'Odéon tout le monde. Donc voilà, et donc du coup, en proposant de la musique, ce qui était à l'époque interdit, donc quelque part, on bravait un peu cet interdit-là. Et aussi en faisant circuler la parole des différentes luttes qui avaient lieu en ce moment, quoi. Et beaucoup des musiques de ce disque ont été travaillées, jouées pendant ces agora, en fait. On a expérimenté certains titres de l'album lors de ces lors de ces agora, voilà.
Donc c'est vraiment une musique qui est née dans cette lutte-là, de l'Odéon.
Voilà, en tout cas, cette occupation a une importance vraiment significative dans l'histoire de notre
Ça donne encore plus de raisons de passer à l'écoute du deuxième titre de l'album au cours de cette émission. Donc là, tu as choisi une de tes compositions, c'est... Alors mon portugais est absolument inexistant, donc je vais faire de mon mieux, mais « O Monte Lilas ».
Voilà, j'ose pas te reprendre, puisque n'étant pas moi-même lusophone, je crois qu'on dit Au Monte Lilas, mais.
Ok.
Désolé pour l'accent.
Thank you.
au Monte Schlilas du Karine Hué Thomas Laurent Trio, accompagné le troisième de Yesser Oliveira. Vous êtes à l'écoute de Blues en Liberté sur Radio Libertaire, c'est le 89.4, la voix de la Fédération Anarchiste, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité. Faut que je vous le dise quand même, mais cette radio fonctionne sur le mode associatif et donc elle a besoin du soutien de ses auditeurs et de ses auditrices. Il y a deux façons de manifester ce soutien, en plus d'écouter la radio, de nous appeler, de nous interpeller, de diffuser tout ça, c'est de nous soutenir financièrement. On en a besoin pour renouveler le matos, pour tout ça. Vous pouvez soit télécharger un bon de souscription sur le site de la radio, www.radio-anarchiste.com, je crois. Et là, vous le remplissez à la hauteur de vos envies et de vos moyens. Soit vous allez à la librairie Publico, la librairie du Monde Libertaire, c'est rue Amelot. Et c'est super, il y a plein de livres, plein de disques aussi, plein de t-shirts, plein de choses, plein d'activités. Donc il faut y aller tout le temps, c'est super si vous pouvez. Et en plus, on peut y prendre une carte d'auditeur ou d'auditrice qui, pour la modique somme de 20 euros, vous donnera certaines réductions sur des lieux de spectacle et de vie dans la région parisienne. Voilà. On revient à l'Agora et en fait, dans la suite un peu de ce que tu nous racontais, Thomas, avant l'écoute de ce très beau morceau, j'ai un peu poussé le bouchon sur l'histoire de ce disque parce qu'elle m'intéresse beaucoup et je pense qu'elle intéresse beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices. Parce qu'en fait, donc t'as occupé l'Odéon et on en parlait là en écoutant le morceau que t'as composé. En fait, c'était il y a un peu plus d'un an, tout ça. Et c'était une période dans laquelle la musique s'est interrompue. Et là, on a l'impression, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'ai l'impression que c'est comme après, tu vois, un grand jeûne, un truc comme ça. Il y a une espèce de déferlement et on parle plus du tout de tout ça. Et quand je dis on, c'est même des artistes qu'on pourrait attendre plus volubiles sur ces questions, qui n'en parlent pas tellement. Alors, ça peut se comprendre parce que chacun et chacune est, a envie de jouer, a envie de faire son métier, son art. Mais c'est comme si on avait mis une grande chape de quelque chose sur cette période-là où pourtant, et toi tu l'as vécu de l'intérieur, j'ai envie de dire, de l'intérieur de l'Odéon en tout cas, pourtant c'est une période qui a laissé des traces, qui va en laisser pendant longtemps. Toi, tu te sens comment, en tant qu'artiste musicien engagé aussi, tu te sens comment dans le monde d'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, en tant qu'artiste musicien, après tout ça?
Je pense que c'est forcément un peu inquiet au vu de tout ce qui se passe, plus largement que dans le domaine de l'art. Hein. Bon, là, heureusement pour nous, c'est, je veux dire, là, pour en revenir juste aux musiciens, ça repart. Il y a quand même, heureusement, l'activité qui reprend. Mais les choses ne sont pas gagnées, quoi. Juste pour nos problématiques artistiques, il y a encore des reports de spectacles qui ont pas pu avoir lieu. Puis il y a des spectacles qui n'ont pas pu être reportés. Donc c'est compliqué. Et puis après, au niveau des programmations, il y a une sorte de bouchon qui se crée aussi. Parce que tous ceux qui n'ont pas pu être programmés là vont être programmés plus tard, et en même temps il y a des nouveaux projets qui arrivent et ça crée un espèce de phénomène comme ça d'entonnoir où c'est pas si simple, où c'est pas parce que c'est la situation on peut de nouveau faire des spectacles de manière libre que c'est reparti comme en 14 comme on dit. C'est compliqué. Puis bon, là, en plus de ça, ça c'est une autre problématique, mais enfin, qui nous touche directement, c'est les coûts qui augmentent de partout, quoi, notamment l'essence. Quand on se retrouve à signer des contrats il y a un an et puis qu'on les fait maintenant, mais qu'entre temps l'essence a doublé. Enfin bref, on est aussi nous impacté par ce genre de choses, mais. L'idée c'est de continuer coûte que coûte à faire les spectacles, à se battre pour nos droits, et puis et c'est ça qui est la ligne directrice de ce qu'il faut continuer à suivre. Voilà. Et quand tu dis oui, j'ai occupé l'Odéon, mais j'étais pas tout seul, attention. Ah bon, c'est collectif, hein. Faut dire vraiment, c'est moi je l'ai occupé, il y en a qui l'ont occupé beaucoup plus que moi. Karine y est restée beaucoup plus longtemps. C'est vraiment un travail collectif. Hein. Et puis, il n'y avait pas que l'Odéon aussi, je précise. Hein, c'était une centaine de lieux dans toute la France.
Ouais,
et pas que en France. Il y avait aussi à Athènes, en Italie. Enfin, bref.
Tu fais bien de le rappeler,
ouais.
Cela dit, je voulais revenir un peu dessus avant. Mais pour moi, c'est la même chose. Enfin, on parle toujours de la même chose aussi. Hein,
ouais,
mais c'était parce qu'il y a eu une répression policière sur les artistes et qui est quelque chose qu'on a peut-être moins de facilité à concevoir. Alors quand là, je dis on, c'est plus les artistes et les musiques que je connais, les militants. Je dis on, ce on très large, l'opinion publique, si c'est un truc qui existe. C'est peut-être plus compliqué de concevoir que la police française, elle a aussi tapé sur des artistes. Et pourtant, il y a eu une répression à cet endroit-là, à ce moment-là.
Oui.
Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu
Alors nous, on l'a vécu... Moi, je dirais que c'est la police, c'est l'État, en fait, hein, du coup. Hein, c'est pas la police en autonomie qui évidemment...
Les forces répressives
voilà,
de l'État.
Voilà, c'est ça. Ils obéissent à leur maître. Oui, nous, de l'Odéon, on a pu voir des scènes complètement hallucinantes qu'on ne pensait pas avoir un jour. Voilà. Comme je te le disais hors antenne, pendant les agoras de l'Odéon, devant le parvis de l'Odéon, donc, où il y avait de la musique et pas que, il y avait de la danse aussi, des spectacles autres. Spectacle de rue qui venait, et quand ils ont commencé à comprendre que ça fédérait des gens, que finalement c'était peut-être un des seuls endroits où on pouvait voir une expression artistique, les gens ont commencé à venir de manière beaucoup plus nombreuse, et évidemment le discours politique allant avec, l'État s'est méfié vraiment beaucoup de ça. Et donc, très vite, on s'est retrouvé avec des interdictions de faire la musique devant l'Odéon. Le point culminant, ça a été quand il y a eu un orchestre symphonique au début du mouvement qui est venu. Il y a eu 80 musiciens avec les cordes, avec tout le monde. Où il y a eu notamment un moment fort où il y a eu El Pueblo Unido qui a été joué, ça a été un grand moment. La semaine suivante, quand on a voulu renouveler l'expérience avec un orchestre avec des musiciens ultramarins, Guadeloupe, Martinique, ça, avec un collectif de musiciens caribéens, là l'interdiction est tombée, quoi, c'est-à-dire interdit, sinon répression, voilà, sinon amende, sinon voilà. Puis comme je te le disais en antenne, on a pu voir aussi certaines choses, notamment une batucada arriver pour jouer devant le théâtre de l'Odéon, et là des policiers en civil de la préfecture de police aux ordres de Didier Lallemand qui arrivent et qui disent si on entend une note de musique, on saisit les instruments et ça peut mal se passer. Il y a le chef de la batouk qui a dit très bien, à ce moment-là, on va pas jouer, on va pas porter les coups, on va faire un air concert, comme on dit, pour montrer la censure. Et ce qui s'en est suivi, c'est que les flics sont revenus et ont dit attention, si vous sortez les instruments des housses, on saisit, et c'est la fourrière. Et quand un instrument est saisi et va en fourrière, derrière, c'est un process, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir le récupérer, c'est des procédures longues, compliquées. Donc là, c'est clairement de la répression. Voilà, donc quand on entendait Roselyne Bachelot dire qu'elle aimait beaucoup la culture et que dans le même temps, il se passait ce genre de choses, voilà.
Ouais, Roselyne Bachelot... Voilà. Chroniqueuse aux grosses têtes et ministre de la culture qui nous a gratifié de larmes pour les artistes et la culture pendant cette période-là, et période aussi où, puisque tu as parlé du rôle de l'État et des personnes qui dirigent à l'heure actuelle l'État français, où on a aussi dit aux artistes, donc là c'est le président Macron qui avait dit aux artistes qu'il fallait qu'ils apprennent à chevaucher le tigre. Je rappelle ce moment qui était particulièrement éloquent, puisque Chevaucher le tigre, c'est une référence à un livre de l'après-guerre qui est une des principales références néo-fascistes de l'après-guerre, qui s'appelle Chevaucher le tigre. J'ai oublié, j'en suis presque content, le nom de l'Italien qui a écrit ce livre-là. Mais en tout cas, je trouve ça assez fort comme témoignage, parce que ça nous rappelle aussi que, en fait, ce fameux monde de la culture dont on parle beaucoup, dont les politiques aiment bien parler abstraitement, quand il a fallu, c'était hier, ils l'ont bien réprimé, bien sauvagement.
Voilà, tant que la culture reste pour eux apolitique, c'est très bien. Dès qu'on s'en sert comme outil de lutte et d'émancipation, là, ça devient un autre problème.
Et est-ce que... Est-ce que toi, tu vois un lien, on va revenir directement sur cet album, est-ce que tu vois un lien dans la musique que vous avez choisi de faire à ce moment-là avec Karine, donc en dehors de ce que tu as expliqué sur cette question des hanches libres et de votre rencontre, est-ce que toi, tu vois un lien, est-ce que cette musique, elle parle de quelque chose qui dépasse, si c'est possible, le seul aspect musical, qui est une forme d'engagement?
Bah en fait, cette musique, donc nous, c'est une musique inspirée par les musiques traditionnelles que sont le foro, par exemple, ou encore le choro. À des degrés divers, ces deux musiques-là sont quand même des musiques plutôt populaires. Donc moi, c'est des musiques que j'ai entendues dans la rue, par exemple. Je suis allé donc une seule fois au Brésil. La seule fois où j'ai entendu ces musiques-là, c'était dans la rue. Ça n'a pas été dans une salle de spectacle ou ça n'a pas été dans un endroit où il faut. Où on s'assoit, on en écoute. Voilà, c'est des musiques qui se jouent, qui sont faites pour l'extérieur, quoi. Qui sont, donc il y a tout cet aspect, on va dire, populaire, joyeux, fédérateur. Je trouve qu'on retrouve dans cette musique qui nous parle évidemment beaucoup à tous les trois, quoi.
Et qu'on soit bien clair pour ceux et celles qui, peut-être un peu comme moi, je sais pas, s'y connaîtraient pas entièrement dans cette tradition-là. Donc le foro, on parle bien d'une tradition populaire qui est plutôt du nord-est, du pays. Tandis que le choro, on est plus sur le sud, Rio, Sao Paulo, etc.
Voilà, globalement, okay. Après, il y a des nuances. Karine, elle s'est très bien expliqué ça. Moi, je ne voudrais pas m'aventurer plus loin que ça, de peur de faire une boulette. Mais en gros, il me semble que c'est ça. Voilà. Ouais. Et puis, quand même, il faut que je le dise, parce que c'est une information importante, parce que c'est aussi pour ça que je suis là. En fait. C'est pour aussi annoncer, quand même, que ce disque Agora de notre trio, il sort lors d'un concert qui va avoir lieu le dimanche 23 octobre. À 18h dans un endroit très sympathique qui s'appelle la Belle Maison à Bagnolet. Donc il y a une entrée, c'est une entrée payante. C'est 5 euros pour les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, les travailleurs pauvres, 10 euros tarif normal et 15 euros vous avez la place et notre disque en plus. Voilà.
Ok, VIP quoi.
Voilà, avec le disque. Yes.
On va s'écouter parce que c'est aussi ça, les engagements, les luttes. On va écouter un titre composé par Karine Huet, qui s'appelle Machiche Joyeux.
Exactement.
Et la joie, c'est aussi ce qu'on retrouve quand on lutte. Ouais. Donc on va s'écouter ça tout de suite. Thank you. Machis joyeux. Alors j'ai appris hors antenne. Je vous balance des fake news, moi aussi, à mon tour. J'ai appris que c'était pas du tout un machiche de la joie, mais c'est le joyeux qui vient d'ailleurs. Mais peut-être que quand même, il y a de la joie dans ce joyeux. Mais est-ce que tu peux du coup expliquer le titre de ce machiche ?
C'est donc une composition de Karine qui a écrit ce morceau-là dans un endroit qui s'appelle Joyeux. C'est un petit village quelque part dans le sud de la France, je ne sais plus exactement où. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelle Joyeux, comme le nom de l'endroit où il a été composé. Et le machiche, parce que c'est le machiche est une et un rythme, une danse. Une danse qui a été pendant un moment interdite pendant la dictature au Brésil. Et donc pour l'histoire de ce morceau.
Donc il n'y a pas que Didier Lallemand qui interdisait de la musique, c'est une pratique de certaines personnes là, d'essayer d'interdire les musiques qu'on retrouve comme ça dans l'histoire. Donc Machis Joyeux, composition de Karine Huet, je suis avec Thomas Laurent du Karine Huet et Thomas Laurent Trio, ça ne s'invente pas pour la sortie de ce beau disque Agora. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur la réussite aussi esthétique de cette pochette, parce que ça fait partie de mes marottes, mais il y a tellement de disques qui sortent. C'est inimaginable le nombre de disques qui sortent. On ne peut pas tous les écouter. Et dans le tas, il y en a beaucoup où on ne soigne pas assez, même dans des labels parfois très riches, où on ne soigne plus du tout les pochettes, alors que c'est quelque chose d'assez important. Moi, j'ai toujours associé les disques, les sons à des pochettes. On a tous des pochettes en tête. Et là, franchement, c'est très réussi. Et tu m'as expliqué qu'en fait, c'était un mix entre deux photos, donc fresque du canal de l'Ourcq et une photo de Bogota.
Oui, exactement. Voilà, c'est une superposition de deux photos. Et comme c'est deux photos qui symbolisent l'extérieur, la rue, la fresque, une fresque murale, donc là dans la rue, et puis là c'est une photo d'un paysage urbain de Bogota avec une statue. Donc, comme notre musique, elle est faite pour l'extérieur aussi. On a beaucoup joué en extérieur en fait.
C'est-à-dire, vous jouez dans quel contexte en général tous les trois?
On a fait pas mal de concerts quand même dans le cadre syndical, quoi.
Ouais.
Dans des manifs, aussi au théâtre de l'Odéon. On s'est déjà retrouvé à jouer sur la terrasse là tout là-haut.
Il y a du monde.
Il y avait du monde en bas, ouais.
Trop bien. Et il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé dans un trio.
Oui.
C'est Yesser Oliveira, donc,
oui.
Que vous avez croisé.
Que Karine en fait connaissait et qui joue, qui est un super percussionniste au pandero. D'abord, pour ceux qui connaissent pas le pandero, c'est ce qui ressemblerait à un tambourin en fait. Hein, c'est un tambour sur cadre avec des petites cymbalettes de part et d'autre. Et en fait, c'est un instrument qui peut même faire une comme une batterie, quoi. Il y a la grosse caisse, on entend le bas, on entend les cymbales, on entend la caisse claire, on entend tout ça, quoi. C'est un peu presque une batucada de poche à lui tout seul, ce pandero. Et Yesser joue aussi le triangle qui est vraiment un des instruments emblématiques du foro, notamment. On retrouve cet instrument pas que dans cette musique-là, mais aussi dans là. Et il y a aussi un morceau où il est au kaishishi sur ce disque. C'est des percussions avec des graines à l'intérieur, voilà, qu'on secoue.
Mmh. Ok. Et là, maintenant, on va écouter un choro que tu as composé. Donc, on a fait le... Non, on n'a pas fait le foro encore, il me semble. Ça, c'est pour après. On n'a pas encore écouté de foro, mais on rentre dans cette tradition que tu nous as citée. Et donc là, c'est un choro d'octobre, si je ne me trompe pas. Voilà, je ne suis pas lusophone non plus, mais choro de outubro. Ça me semble bien ressembler à un choro d'octobre. On est en octobre, donc franchement, c'est
parfait.
Voilà, que demande le peuple. Est-ce que tu peux expliquer d'où vient cette composition? Comment tu as pensé
cette composition-là, un peu comme les autres, c'est un petit peu, quelque part dans ma tête, une compilation de tous ces airs de musique choro, foro, qui m'ont nourri et inspiré. Puis, quand on compose, on part pas de rien, forcément. Ça, c'est toujours la traduction de style qu'on aime, et c'est ça qui a guidé L'écriture de ce morceau, comme les autres en fait.
Donc toi, c'est une musique que tu écoutes depuis longtemps, que tu pratiques depuis longtemps?
Depuis longtemps, moi je l'ai découvert par comme je te disais, lors d'un voyage au Brésil, un peu par hasard, c'était pas prévu. Et donc depuis que je suis tombé là-dessus, que j'ai entendu ces musiciens-là en jouer, ça m'a tout de suite parlé, puisque... En fait, l'harmonica chromatique, c'est un instrument assez récent dans l'histoire des instruments, et il y a pas beaucoup de répertoire écrit spécifiquement pour cet instrument-là, quoi. Et je trouve que cette musique, ces musiques brésiliennes, de toute façon, sont tellement riches mélodiquement, rythmiquement, harmoniquement que ça m'a donné envie de le jouer à l'harmonica, quoi. D'autant plus que je peux avoir sur cet instrument-là une tessiture comme la flûte traversière ou comme la clarinette, qui sont les instruments phares des musiques choro, par exemple.
C'est-à-dire que toi, en tant qu'harmoniciste chromatique, tu es contraint effectivement très souvent de devoir arranger pour ton instrument les musiques que tu souhaites jouer.
Voilà, ouais c'est ça. Ou écrire dans le style de... Ouais. Mais c'est une contrainte qui me va très très bien. Hein. Ouais. C'est super.
Okay. Et tu t'es jamais demandé, tiens, j'en ai marre, je vais jouer de la clarinette pour jouer du choro? Non, c'est... T'es aussi un militant de l'harmonica, en fait.
Voilà, les anges libres.
Ok, vive les anges libres, vive la liberté des anges. On écoute donc le choro des Outobro, pardon aux lusophones, composé par Tolma Laurent et interprété par le trio formé par Karine Huette, Thomas Laurent et Yesser Oliveira. Donc le choro d'octobre du Karine Huette et Thomas Laurent trio, je l'ai bien dit cette fois. Je rappelle, on est à la moitié de l'émission, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, c'est le 89.4. On est le mercredi 19 octobre et on est en train de parler de ce bel album d'un beau trio. Donc Agora, tu l'as dit tout à l'heure, mais on va le répéter parce que c'est important, on le répétera même une troisième fois à la fin de l'émission. Ouais. Vous jouez à Bagnolet dimanche.
Voilà, le dimanche 23 octobre à 18h, dans un endroit qui s'appelle La Belle Maison. L'adresse est 24 rue de Malmaison. Voilà, donc il y a une petite billetterie. Voilà, donc 5 euros pour les chômeurs, bénéficiaires du RSA et travailleurs pauvres. 10 euros, tarif normal. Et 15 euros pour ceux qui veulent repartir avec un petit souvenir de nous chez eux, avec notre disque. Voilà, donc 15 euros, une entrée, un disque.
Et c'est bien d'avoir des disques. C'est quand même beaucoup mieux que d'avoir des abonnements Spotify.
Voilà.
Hein. Donc, c'est bien de soutenir les artistes. C'est bien d'avoir des disques. Et c'est bien de ne pas en avoir si vous ne voulez pas, bien sûr. Mais on va peut-être poursuivre un peu, sur, puisque tu es venu représenter ce trio sur toi. Donc, tu nous as parlé de ton lien avec ces musiques-là, ta découverte de ces musiques-là, mm-hmm. et aussi de ton lien avec cet instrument dont on peut convenir que ouais, ce n'est pas l'instrument le mieux connu, ce n'est pas l'instrument qui produit le plus de stars dans le monde d'aujourd'hui. Donc, l'harmonica, est-ce que tu peux nous réexpliquer, tu l'avais déjà dit dans une précédente émission, mais ce rapport que tu as avec cet instrument bien particulier, l'harmonica chromatique.
Oui, alors juste pour relativiser ce que tu disais sur ça n'a pas généré de stars, si on peut quand même en citer une que tout le monde connaît, ici c'est Stevie Wonder, quand même, qui est le représentant mondial de l'harmonica chromatique, encore en vie aujourd'hui.
Ouais. Parce que, bon, bah, big up à Stevie, Stevie. Et je m'excuse de l'avoir oublié.
Voilà, après pourquoi l'harmonica, bon, à la base, c'est moi, je viens d'une formation plutôt classique au piano et au saxophone, et pour des raisons pratiques, puisque adolescent j'aimais bien voyager, je me suis dit quel instrument je pourrais prendre pour que ce soit facilement transportable, et très vite je suis tombé sur l'harmonica. Depuis, j'écoutais à l'époque beaucoup de blues, tout ce qui est Sonny Terry, Little Walter, tout ça, donc je suis tombé évidemment dans le là-dedans, quoi. Donc je me suis vite acheté un harmonica diatonique, et puis puis j'ai commencé à faire ça, quoi. Et puis petit à petit je me suis dit, bah c'est vrai, il y a aussi l'harmonica chromatique, et puis j'ai commencé à écouter d'autres musiques plutôt traditionnelles, comme la musique irlandaise, où je suis tombé sur un harmoniciste qui jouait ça très bien. Du coup j'ai eu envie de par la musique irlandaise, en fait, de me mettre au chromatique, puis après le jazz est venu rapidement derrière, et puis d'autres musiques se sont offertes à moi aussi au gré des rencontres. J'ai pu travailler sur d'autres types de musique, quoi, voilà. Grâce à ça, quoi.
Ok, et tu pourras détailler peut-être à la fin de l'émission, effectivement, tous les contextes, tous les groupes, tous les amis avec qui tu joues. Dans ce disque, donc Agora, y a beaucoup de compositions. Et ces compositions, si je comprends bien ce que tu me disais hors antenne, sont appelées à devenir l'essentiel de votre répertoire de plus en plus.
Voilà. Okay. Ouais, tout en se gardant quand même des titres qu'on aime bien entendre, parce qu'il y a des morceaux forts des grands maîtres brésiliens qu'on joue là, comme Hermeto Pascoal ou Pixinguinha. Et c'est, on aura du mal à s'en défaire. On a quelques-uns, même si on veut axer plus sur les compositions, il y a quelques belles compositions de ces compositeurs-là. Ça va être compliqué pour nous d'arrêter de les jouer, je pense.
Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive quand tu dis ça?
C'est des musiques, c'est ces musiciens-là, c'est ces musiques-là, quelque part, qui nous ont poussés vers cette musique-là, qui nous ont poussés à les jouer. Et ça, on aime aussi leur rendre hommage à notre manière et avec notre instrumentarium, un peu inédit quand même.
Oui, complètement inédit, et ça s'entend, je crois, extrêmement bien à l'écoute. Là, on continue ce parcours dans votre album. On va parler d'Hermeto Pascoal, puisque vous reprenez un titre d'Hermeto Pascoal qui s'appelle Valle da Ribeira, qui est je le savais pas, hein, parce que parfois j'ai des collègues, j'entends à la radio, on a l'impression qu'ils savent tout, alors qu'en fait c'est les invités qui disent, donc je préfère être honnête, c'est toi qui viens de me dire ça. C'est une musique de documentaire, c'est ça qu'il a fait.
En tout cas, c'est une musique qui a servi à un film qui parle d'un lieu, je pense que Valle da Ribeira, c'est la vallée qui s'appelle comme ça, quoi. Et c'est quand vous allez sur YouTube, vous tapez Valle da Ribeira, la version d'Hermeto Pascoal, et vous tombez sur un film des années peut-être 70 ou fin des années 60, je sais pas. On voit une caméra qui se promène dans cet endroit-là, avec la musique d'Hermeto, quoi.
Et justement, Hermeto, par rapport à tout ce qu'on a dit, alors en dehors du fait que voilà, c'est un géant de la musique brésilienne et de la musique mondiale, c'est aussi quelqu'un qui a, dès les années 60-70, à la fois énormément influencé. On rappelle, Miles Davis reprend certains de ses thèmes et ils ont joué ensemble. C'est quelqu'un qui a engagé aussi, donc son premier album, il me semble, c'est Slave Mass, donc c'est la messe des esclaves. C'est quelqu'un qui a ce rapport là aussi avec un Brésil traversé d'une histoire complexe, riche, belle, mais parfois et très souvent sanglante. Ça, c'est quelque chose qui vous a parlé, c'est aussi ce Brésil là que vous allez chercher dans la musique d'Hermeto, ou alors je me plante complètement?
Non, de toute façon, Valle da Ribera, c'est un titre que c'est Karine qui a. Elle a une grande connaissance dans cette musique-là. Elle connaissait déjà ce morceau. Elle l'a proposé. Et de toute façon, le Bayan, le Foro, ces styles de musique-là sont des musiques très populaires. Elle a vécu ça là-bas vraiment de manière très 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 proche, puisque elle a appris cette musique-là là-bas directement. Elle a fait plusieurs voyages au Brésil. C'était, je crois que son premier voyage date peut-être de 99-2000, je sais plus, par là, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait pas encore Internet, donc pour aller chercher le style musical, il n'y avait rien d'autre à faire que de se rendre là-bas. Donc elle est partie avec son accordéon, et après un périple là-bas, elle a rencontré cette musique-là. Donc forcément, les endroits où ça se joue, donc des endroits très populaires, très, très ouverts. Et donc, c'était une expérience très très forte pour elle, quoi. Et donc évidemment, tout l'aspect populaire nous parle, quoi, en fait. Ouais. Alors, forcément, elle lui parle.
Ok. Et juste rappel sur Hermeto Pascoal, c'est aussi quelqu'un qui a, alors je sais pas si on peut dire théorisé, mais bon, en tout cas, il y a cette idée forte de la musique universelle, musica universelle, dans ce que fait Hermeto Pascoal, et d'ailleurs ses proches, notamment je pense à Iti Berezwarg et à la famille Zwarg, qui a repris ce flambeau-là, parce que Hermeto est un peu âgé maintenant. C'est aussi une musique qui se construit autour de cette idée de communicabilité avec tout le monde.
Ouais.
Donc c'est des gens qui vont jouer en fait dans le monde entier. Donc c'est extrêmement internationaliste. Il y a aussi une idée finalement de lien avec les êtres animaux, végétaux, qui est extrêmement forte. Selon moi, c'est quand même une musique qui arrive à inventer quelque chose esthétiquement très fort, tout en pensant en tant que musique. Enfin, en tant que musicien, la connexion avec l'ensemble du monde, quoi.
Je sais pas il y a un côté très spirituel, dans la musique d'Hermeto. Hein, ça.
Et c'est quelque chose qui vous parle, ou vous êtes un trio matérialiste à fond?
Non, évidemment, oui, ça nous parle, après, de dire que c'est ce qui guide toutes nos compositions. Non, on va pas aller jusque là non plus. Enfin, pour ma part, hein, en tout cas.
Mais je comprends. J'aime bien parler de leur truc. Je prenais un prétexte. On s'écoute tout d'abord la version originale, donc qu'on est allé chercher sur un site dont je tairai le nom, qui passe des vidéos avec un symbole rouge, tout ça. Et puis ensuite, on se retrouve pour écouter votre version.
Ouais.
Allez, on fait ça.
Décadas de luta de entidades e grupos preservacionistas pela defesa efetiva do PETAR, ele finalmente está sendo demarcado. Essa demarcação está sendo realizada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, que está coordenando um projeto integrado de preservação da região.
C'était donc Valle da Ribeira dans sa version originale, composée par Hermeto Pasquale. Comme le disait Thomas tout à l'heure, donc, c'est une musique destinée à un documentaire qui a été produit dans les années 70. Maintenant, on va écouter donc votre reprise de ce titre d'Hermeto Pasquale, Valle da Ribeira, sur l'album Agora. We'll be right back. Valle da Ribeira, thème composé par Hermeto Pasquale et repris ici par Karin Huet, pardon, je m'excuse auprès d'elle, à chaque fois j'ai envie de dire Huet, mais c'est bien Huet, Thomas Laurent et Yesser Oliveira. Tu l'as commenté toi-même hors antenne, mais c'est vrai que là on sent très bien, et on l'écoutera dans d'autres thèmes, et on sent très bien ce côté... brassage des timbres sur ces hanches libres, c'est vraiment enfin, en fait, moi ce que j'ai envie de dire, c'est même pas une question, c'est un commentaire, mais c'est vrai que ça crée un sentiment assez fort et assez original, enfin très original, de ce brassage entre deux timbres qu'on a peu l'habitude d'entendre ensemble, en fait. Enfin, c'est assez rare d'avoir ces hanches libres, donc accordéon et harmonica, qui s'enlacent, qui font leurs deux parties, etc. Moi, ma question, c'est plutôt, je suppose que bien sûr vous aviez conscience de ça, mais comment vous travaillez? Comment vous avez pensé ça? Comment vous avez composé? Comment vous avez répété, arrangé tout ça pour que ça marche bien, en fait?
On essaye, on teste, on travaille. Oui, parce que comme c'est quelque chose, le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait.
Ouais.
Donc, pour trouver le bon équilibre, c'est quelque chose qu'il faut tester, qu'il faut voilà. Donc on répète ça, notamment sur les thèmes. Par exemple, je vais parler pour mon instrument. L'harmonica est plutôt un instrument mélodique, en tout cas l'harmonica chromatique est plutôt amené à jouer des mélodies, donc plutôt à faire des thèmes et des improvisations. Là, l'enjeu aussi dans notre formule, c'est que on puisse chacun à tour de rôle se passer la parole. C'est-à-dire que moi, je ne sois pas tout le temps assigné à ce rôle-là, mais que je puisse parfois être en accompagnement. Donc, pouvoir soutenir aussi ce que joue Karine à la main droite de son accordéon. Donc, me placer entre sa main gauche qui va faire les basses et la main droite qui fait les mélodies, en fait. Donc il faut que l'harmonica rythmiquement il se cale là de manière cohérente, et aussi Karine a tout un jeu aussi à développer sur les elle le fait déjà, d'ailleurs on le fait, hein, c'est, enfin ça fait partie de nos axes de recherche, en fait, et de ce qu'on propose sur les timbres aussi, quel timbre utiliser, parce que l'accordéon c'est un instrument très riche en timbres, il y a plein de timbres possibles, donc comment faire, comment utiliser tout ça, quoi, où se placer pour que l'ensemble soit cohérent. C'est l'enjeu vraiment de notre formation, quoi.
Ok, en plus de faire de la super musique.
On essaye, c'est l'ambition qu'on a, en tout cas.
Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que là, je trouve que c'était particulièrement frappant, et ça l'est dans d'autres morceaux, bien sûr, mais il y a ce truc assez frappant, assez touchant, je trouve, et assez émouvant dans ce que vous faites, qui est cette dimension-là, quoi, de réunir deux instruments... On aurait pu penser que c'était redondant, et en fait finalement ça marche, quoi.
Parce que c'est aussi le principe du choro, en fait, hein, de cette musique là c'est-à-dire que comme c'est souvent plusieurs instrumentistes qui mènent un thème, et parfois des improvisations, donc les thèmes circulent beaucoup, ça fait partie vraiment de la forme traditionnelle de cette musique. C'est-à-dire la flûte traversière va jouer une partie d'un morceau, la clarinette va reprendre la même partie mais un peu différemment ensuite, voilà, enfin c'est la parole circule entre les différents mélodistes. Il y a la guitare aussi qui peut faire les thèmes, la mandoline. Si un jour nos auditeurs ont l'occasion d'aller voir une roda de choro, c'est-à-dire un endroit où les musiciens de choro jouent ensemble, ils vont pouvoir s'apercevoir qu'effectivement les thèmes circulent, c'est pas un instrumentiste qui joue tout le temps le thème, un peu comme pour caricature, on va dire en jazz manouche, quoi. Il y a le soliste et puis il y a celui qui va faire l'accompagnement. Voilà. Après c'est vrai que dans la musique brésilienne il y a des instruments qui sont plus faits pour l'accompagnement, comme tout ce qui est percussion, on va dire. Voilà. Mais la guitare peut prendre parfois l'accompagnement, la mandoline aussi, ça circule.
Ok, et ça m'amène à une question que je n'avais pas prévu de poser, mais est-ce que vous improvisez? Alors, sur l'album, je n'ai pas trop eu l'impression, mais peut-être que si, peut-être que j'ai mal écouté. Et en concert, est-ce que c'est des thèmes, des compositions, des arrangements sur lesquels vous improvisez?
Oui, alors il y a des parties définies qui sont improvisées.
Ok.
Il y a plus de parties, on va dire, écrites, et à l'intérieur de ces parties écrites on a des espaces, on dit des grilles, on va dire, hein, des parties où c'est improvisé, des parties qu'on joue à notre manière, quoi.
Voilà. Ok. Et donc après avoir écouté Hermeto Pascoal, là c'est la partie un peu l'histoire des musiques brésiliennes qui est concrète, puisqu'on écoute les reprises que vous avez fait, les arrangements que vous avez fait de thèmes composés par d'autres musiciens. On va donc passer maintenant à une composition de Pixinguinha que vous avez réarrangée, qui s'appelle Acerta o Passo.
Acerta o Passo.
Ok. Tu sais ce que ça veut dire? Pas du tout. Bon, bah, on demandera et on vous le dira la semaine prochaine. Est-ce que tu peux présenter, alors, en deux mots, qui est Pixinguinha et ce titre que vous avez choisi de reprendre? Pourquoi vous le reprenez?
Alors, Pixinguinha, c'est un des grands compositeurs et instrumentistes aussi du choro. Ça fait partie des légendes, on va dire, du choro, de ceux qui ont apporté énormément de thèmes. Il était saxophoniste et flûtiste, saxophone ténor. Et il a écrit beaucoup avec son compère, la Benedito de la Cerda. D'ailleurs, ils sont deux à avoir composé ce morceau. Et très vite, Pixinguinha, enfin, de toute façon, c'est comme ça, c'est le choro est comme ça. Il y a des parties de contrepoint, souvent. Lui, il a vraiment poussé ça très très loin, le contrepoint en choro, c'est-à-dire, il y a la mélodie, et derrière, il y a une autre mélodie qui se crée pour une mélodie d'accompagnement, mais qui est là. Et nous, dans ce morceau qu'on a réarrangé, on a voulu vraiment reprendre cette idée-là du thème et du contrepoint. Et donc, pour ce titre, la Carine, elle est à l'accordina, qui est un instrument, en fait, dans lequel on souffle. Et c'est un peu, on va dire, pour les personnes qui connaîtraient pas l'accordina, c'est un mélodica. Voilà, c'est-à-dire que, vous voyez ce que c'est un mélodica, c'est vous soufflez dans un instrument, et puis il y a les touches clavier du piano. Et l'accordina, c'est on souffle, et sauf que c'est des touches boutons d'accordéon. Mmh. Voilà. Donc c'est comme si on avait un accordéon à bouche. Voilà. sauf qu'on n'a pas la main gauche, on n'a que les touches pour faire les mélodies. Donc il est possible de faire quelques accords, hein, si on veut faire 2-3 sons en même temps. Mais là, l'idée pour nous sur ce morceau était vraiment de jouer ça en contrepoint, c'est-à-dire un deux voix. Mmh. C'est-à-dire il y en a un qui fait la mélodie, l'autre qui fait le contrepoint, et après celui qui fait le contrepoint passe à la mélodie pendant que l'autre change de rôle, etc. Et donc c'est sans arrêt, enfin on va dire un jeu d'échange en fait entre le thème et le contrepoint.
Ok, donc encore un jeu dans le jeu sur les timbres, sur ces voilà. fameuses hanches libres. Mais là, est-ce qu'on peut parler d'hanches libres alors que...
Ouais. Ouais. Ah oui, l'accordina est aussi un instrument hanche libre, comme le mélodica d'ailleurs. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais l'accordina, ouais. C'est des hanches en fait qui vibrent de la même manière que tous les autres.
Ok, donc c'est vraiment, il y a cité. Un truc avec les hanches libres.
Ouais, ouais.
Ok, bon bah écoute, super, je respecte à fond ça. Et on va écouter tout de suite donc Acerta o Passo, composé par Pixinguinha et Benedito Lacerda, que j'avais oublié de citer tout à l'heure, tu fais bien de le rappeler, dans cet arrangement contrapuntique que vous en avez fait. C'est tout de suite sur Radio Libertaire. Thank you. C'était Acerta O Passo, composition de Pichin Guinea et Benedito Lacerda, donc arrangé par Karine Huette et Thomas Laurent, accompagné de Yesser Oliveira.
Au Kaishishi.
Au Kaishishi, ok. Et Karine Huette était à la Cordina, comme on le disait auparavant. Et c'est vrai que c'était, c'était super clair, en fait, ce que tu expliquais avant, c'est-à-dire cette imbrication des deux voix et ce jeu sur le contrepoint. Ce qui m'amène à une question autour de laquelle on tourne un peu depuis le début de l'émission, en fait, c'est le rapport assez fréquent, donc on pose souvent ça aux musiciens, mais le rapport aux musiques traditionnelles, puisque le choro et le foro, tu l'as expliqué, sont des musiques traditionnelles populaires brésiliennes qui ont une histoire, qui ont un répertoire, qui ont des codes. Comment vous, dans ce trio, vous abordez ces traditions-là ? Est-ce que pour être très concret, toi, tu te définis comme joueur de tradition choro ?
Non, pas du tout. Je pense que je t'explique. Non.
Je m'en ai un peu parlé en tête, pour être honnête.
C'est pour ça. Non, moi, j'ai pas j'ai pas fait le travail de recherche qu'a fait Karine, qui elle a vraiment tout ça parfaitement. Moi je le joue, on va dire, à ma manière, qui n'est pas, on va dire, de manière traditionnelle, quoi. Mais après tout, c'est aussi le principe de ce trio, de ce groupe, c'est-à-dire, de toute façon, à la base, notre formule n'est pas traditionnelle. Voilà, ça n'existe pas, un groupe de choro traditionnel avec de l'accordéon. En plus, vraiment, alors ça, c'est pour pousser un petit peu dans le détail, mais Karine joue de l'accordéon touche-bouton. Voilà. Mmh. Et au Brésil, l'accordéon qu'on voit le plus souvent, c'est l'accordéon touche-clavier. Voilà. Le foro, il est vraiment joué là-bas avec touche-clavier. Donc, voilà, ça pour dire qu'on utilise des instruments qui sont vraiment pas... cette formule-là n'existe pas au Brésil, quoi. Il n'y a pas un groupe de choro traditionnel qui ferait accordéon harmonica, quoi. Ça. Donc, de toute façon, d'entrée de jeu, on n'est pas dans la tradition.
Vous êtes grillé,
on est foutu. C'est mort si tu vois. On n'est pas un groupe de choro traditionnel. On n'est pas un groupe de foro traditionnel non plus. Pareil, le foro a son instrumentarium bien précis avec à la base l'accordéon. Comme je disais, plutôt touche clavier, le zabumba qui est une percussion et le triangle et le chant, voilà. Donc nous, encore une fois, on est à côté de ça, mais on s'inspire de ces traditions là. Voilà, en y incluant aussi des parties improvisées. Donc voilà, avec nos influences, une influence plutôt jazz, une influence voilà, c'est toutes ces influences là qui se mélange sur ce disque et puis qui fait l'originalité de notre propos, quoi, aussi musical.
Et dans toutes les musiques que tu joues, dans celles que tu as citées tout à l'heure, donc je rappelle, hein, le blues, tu as parlé des musiques irlandaises que tu pratiques aussi, le jazz, finalement c'est des musiques où l'harmonica, qui est, encore une fois, j'insiste, hein, un instrument assez récent dans l'échelle de toute l'histoire des instruments, est-ce que cette... Toi, tu m'en as parlé hors antenne, tu me disais, en fait, je suis assez libre dans mon rapport aux traditions. Et est-ce que c'est pas aussi l'harmonica qui est plus libre ? Parce que, à part peut-être sur le blues et sur quelques traditions très précises, finalement, il n'a pas encore une place attribuée fixe, et donc tu peux aller un peu où tu veux.
Oui, c'est ça. C'est que c'est, on va dire, l'harmonica n'est pas un instrument qui est référencé, enfin, qui n'est pas lié à un style musical. Par exemple, pour être précis, si je dis le biniou, le biniou, c'est un instrument de la musique traditionnelle bretonne. C'est très typé, quoi. Il y a des instruments qui sont liés, on va dire, à un style musical. L'harmonica, après, malheureusement pour lui, c'est un instrument, que, ou heureusement, je ne sais pas, enfin, c'est comme ça, qui est lié plutôt à ce que Hollywood en a fait, quoi. À savoir un truc de western, cow-boy et tout, machin. Enfin, bon, moi, il se trouve que c'est comme ça, voilà.
T'as pas l'air d'apprécier plus que ça l'harmonica.
Non,
western,
bah après, mais... bon, pourquoi pas si ça peut susciter des vocations, mais c'est pas le, moi, c'est pas la musique qui me fait vibrer plus que ça, quoi. Voilà.
Ok. Et même dans, puisqu'on est aux États-Unis, même dans les musiques folk, tout l'usage qu'en ont fait les folk.
Alors après, dans le blues, bien sûr, j'adore. Tu vois, dans le, comme je te disais tout à l'heure, voilà, tous ces artistes de blues là, évidemment, là, je. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ceci dit, l'harmonica quand même a trouvé sa place aussi de manière peut-être un peu plus traditionnelle dans certaines musiques, et notamment au Brésil. Parce qu'au Brésil, il y a eu quelque part une école d'harmonica, un harmoniciste s'appelle Mauricio Einhorn, je ne sais pas s'il est encore en vie, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas s'il est en vie, il doit être assez âgé, et qui a dans son sillage laissé plusieurs harmonicistes brésiliens jouer cette musique-là, et qui ont vraiment, qui eux ont la culture, la connaissance, ont vraiment le son de cette musique. Je pense, pour les citer, à Gabriel Grossi, on va dire, qui est le plus connu, qui vient parfois en France, qu'on peut croiser parfois en France. Il y a Vitor Lopez aussi, qui est un harmoniciste brésilien excellent. Voilà, donc l'harmonica aussi, trouve sa place, fait son trou, et de manière légitime, on va dire, voilà, dans cette, avec ces artistes brésiliens, avec ces musiciens brésiliens.
Mais après, on est à Blues en Liberté, et en tout cas, nous, la légitimité, on s'en fout un peu, mais on aime bien les trucs illégitimes aussi. Mais cela dit, il y a cette espèce de versatilité, moi je trouve, qu'on entend bien dans le disque, que permettent ces anches libres. C'est-à-dire qu'elles sont libres aussi de ce point de vue-là, de se fixer sur différents styles. On avait fait, avec Yoram, qu'on embrasse, toute une nuit sur les accordéons. Donc on aurait pu remettre ça pour les harmonicas, mais en fait, on voit que c'est un instrument qui allait partout aussi sur Terre, qui s'est mêlé de plein de trucs. Et je trouve que la liberté de ces anches-là, elle est aussi là, et que votre disque le fait vraiment bien entendre, et qu'à ce niveau-là aussi, c'est un beau projet. On va remettre du Pixinguinha, si ça te va. Non, je dis n'importe quoi, on va mettre un foro traditionnel qui s'appelle Inchunga Orato.
Inchunga Orato, ouais, qui est suivi d'une composition de Karine qui s'appelle Aracati Anoche. Et petite parenthèse, le morceau qu'a écrit Karine juste après le foro traditionnel, c'est un morceau qui est joué là-bas. C'est une composition à elle qui a eu un certain succès, et qui est même repris par des musiciens brésiliens.
Eh bien, on écoute tout de suite. Thank you. Concerto suivi de Arakati Anoit et de Karine Huet. Et ben c'est vraiment dommage, mais on arrive un peu au bout de ce périple avec, avec Thomas Laurent. Merci d'être venu, Thomas.
Avec plaisir.
Tu étais le représentant ici d'un trio, donc Karine Huet, Thomas Laurent et Yesser Oliveira.
Que j'embrasse bien fort.
Et bah, je me permets de les embrasser aussi. Et j'ai hâte qu'ils viennent me présenter le deuxième disque avec toi pour la prochaine fois. Donc ce disque, c'est Agora. Alors pour l'instant, c'est un disque qui se trouvera bientôt sur les plateformes ou qui se trouve déjà sur les plateformes.
Pas encore. Il est. On peut l'écouter sur SoundCloud. Et sinon, les disques physiques, on les aura, ils seront disponibles pour tout le monde au moment du concert qui aura lieu de la sortie d'album le 23, dimanche 23 octobre à 18h à la Belle Maison à Bagnolet, 24 rue de Malmaison. Voilà.
Tu fais ça si bien. Tu veux pas venir faire des émissions sur Radio Libertaire. et on va se quitter on te remercie encore une fois Thomas. On va se quitter, donc n'oubliez pas, dimanche, c'est le dimanche qui arrive là, dimanche 23 octobre, donc ce trio qui fait un concert de sortie de disque à Bagnolet, 24 rue Malmaison à la Belle Maison. C'est pas compliqué à retenir, il y a deux fois maison,
vous pouvez voilà, pas les trouver. À 18h.
Voilà. Donc métro Gallieni.
C'est ça.
Sur la ligne 3, ouais. Pour les ceux qui et celles qui connaissent. Donc on se quitte avec une dernière composition de Karine Huet qui s'appelle Tanargue, qui ouvre le disque et qui va conclure notre émission. Voilà, il ne me reste que à me répéter, mais je remercie Thomas d'être venu sur les ondes du 89.4 à Blues en Liberté. Et je vous dis à tous et à toutes, à bientôt pour de nouvelles histoires de blues ou d'autres choses, puisque là, on était pas si loin du blues, au Brésil, ça va.
Ça commence par un B aussi.
Voilà, c'est ça. Allez, c'est Tanargue de composition de Karine Huet, interprétée par Thomas Laurent, Karine Huet et Yesser Oliveira. Et puis, salut à tous et à toutes.
Ciao.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site rl.fédération-anarchiste.org.